Actu SF, les podcasts.
Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes nombreux pour venir parler de sexe de bon matin. On prend ça plutôt comme une bonne nouvelle. On a une table ronde sur les poupées sexuelles, sexbots et autres poupées sexuelles, avec trois intervenants avec nous. Sarah Dogg, touche à tout de l'imaginaire, journaliste, traductrice, éditrice, mais aussi romancière. On conseille notamment Techno Fairies, avec peut-être un rapport technologie-nature. Et magie, ça nous permettra de reboucler. À ses côtés, Raphaël Granier de Cassagnac, écrivain, physicien des particules, avec notamment Thinking Eternity et Eternity Incorporated. On parlera peut-être aussi de si ce n'est d'hybridation, mais de corps humain et de machine. Et puis, à ses côtés, Beb Deum. Beb Deum, vous avez forcément vu ses œuvres, puisque c'est lui qui a fait l'affiche des Utopiales. Et Beb Deum, vous avez notamment commencé dans Métal Hurlant, j'ai lu ça. Et puis, vous venez de sortir Mondial TM avec Alain Damasio. Donc, un ouvrage où on peut voir une partie des illustrations, une grosse partie des illustrations sur le papier peint quand vous arrivez directement aux Utopiales. Alors, j'ai un peu bossé sur les sexbots, en cachant mon historique, évidemment, de recherche. Juste pour vous dire, alors, on parlera peut-être un petit peu de l'historique de ces poupées sexuelles, mais juste pour vous dire simplement que la première poupée sexuelle dite réaliste à taille humaine, c'est 96. Il y en a eu d'autres avant. 2010, on a l'apparition de poupées qui réagissent à la voix et aux stimuli, avec quelques modèles masculins, parce qu'évidemment, en poupée sexuelle, on pense souvent au corps féminin, mais il y a aussi des modèles masculins. En 2014, on a notamment une étude qui dit qu'il y a des millions de personnes qui, pour une raison ou une autre, pourraient utiliser des poupées sexuelles, et pas forcément par perversion, mais parce qu'ils ne peuvent pas établir de bonnes relations. Donc les poupées sexuelles, ça pose aussi la question de l'autre et du rapport amoureux. En 2015, Matt McMullen, lui, déclare qu'il a l'intention de créer des poupées sexuelles ayant la capacité de tenir des conversations. Comme quoi, finalement, parler un peu, c'est bien, ensemble. En 2017, on a une compagnie qui dit qu'elle va vendre autant de poupées masculines que féminines. Donc là aussi, ça casse un petit peu nos idées reçues. Et puis, les dernières, l'Android Love Doll peut prendre 50 positions sexuelles automatisées en 2017. Je vous laisse réfléchir aux 50, et quelques autres qui simulent l'orgasme et qui ont des personnalités. Ce qui veut dire que les poupées sexuelles peuvent aussi avoir des personnalités et des avis. En tout cas, dans ce que je regardais sur ces sexbots, très clairement, il y a une imitation de plus en plus loin de l'humain, et pas simplement une imitation de performance sexuelle, véritablement d'humanisation et de rapport et de contact. Mais avant, c'est aussi la question de l'humain et de la machine, quelque part. Beb Deum, quand vous créez ce qu'on a vu l'affiche, et ce qu'on voit dans vos personnages, est-ce qu'il y a cette recherche-là chez vous de pouvoir mettre en lien l'homme et la machine ?
Fatalement, on y arrive, oui. Au départ, je pars du métissage humain, et puis j'arrive à l'hybridation homme-machine, oui, forcément.
Ouais. Et comment elle se fait ? Elle n'est pas forcément... vous avez des personnages qui ont des airs un petit peu robotiques, ou d'autres, c'est simplement des pixels, ou il y a une personnage de vieille femme avec des marques d'anti-rides. Comment est-ce que vous imaginez, vous, cette hybridation ?
Toujours compliqué d'expliquer le travail. Je sais pas, ça me vient comme ça. C'est des ajouts à l'humain, en fait, de plus en plus. Et puis on arrive fatalement à des mécanismes.
Et le côté sexuel dans vos représentations, comment il vous vient? Entre guillemets, c'est une part importante de votre travail, ou ça découle véritablement de cette hybridation?
Oui, je pense que c'est une part importante, la sensualité, l'érotisme et la sexualité, oui. Je pense qu'on le ressent beaucoup. Après, comment dire, je ne sais pas.
Ouais, c'est d'abord la sensualité plutôt que l'hybridation ou la performance technique.
Bah, si on parle un peu de notre monde, on peut le critiquer dans le sens, dans ce sens-là, enfin, de la performance. Moi, ce qui m'importait, c'est de parler de la mondialisation et du métissage humain, jusqu'où ça peut aller, rattrapé par la globalisation. Voilà, quoi.
Raphaël, dans tes romans, pareil, personnage avec hybridation. Tu peux nous les présenter?
Oui, alors c'est curieux d'ailleurs, j'ai une certaine pudeur par rapport à ça, je crois. J'ai un personnage qui est extrêmement hybridé, qui est un milliardaire qui s'appelle John Tao, qui est dans mon roman Thinking Eternity et qui est repris dans l'anthologie des Utopiales d'il y a 2 ans, je crois, qui était sur la machine. Je fais une espèce de spin-off où je raconte son histoire. Et il s'hybride, il commence par un cœur artificiel parce qu'il a des problèmes bien biologiques, quoi. Et il a un corps artificiel augmenté qui augmente ses performances, sa résistance, son endurance, ce genre de choses. Donc on commence déjà à aller vers un... Et tout de suite, puisque c'est un frimeur, il entretient une espèce de mythe sur ses éventuelles performances sexuelles. Et puis il continue, il se coupe un bras pour se mettre un bras cybernétique, etc., etc. Et j'ai jeté un voile pudique sur est-ce qu'il a remplacé ses organes sexuels ou pas, précisément parce que je trouvais ça amusant. Et donc tout le monde fantasme qu'il a effectivement un sexe, je vous laisse l'imaginer, puisqu'en fait tout le monde se l'imagine, et lui, il ne fait l'amour que dans le noir pour laisser planer le doute sur cette éventuelle possibilité. Mais l'hybridation, ça va arriver, c'est en train d'arriver, et c'est sûr que des gens vont expérimenter l'hybridation sexuelle très vite, quoi. Si ce n'est pas déjà fait, d'ailleurs, je me demande...
D'accord, je vous laisse aussi imaginer l'hybridation sexuelle rapidement, mais on peut se demander si finalement, au niveau des seins, alors j'ai perdu les mots, hein, il est trop tôt ce matin.
Le silicone.
Voilà, le silicone, si c'est pas une forme d'hybridation.
Complètement, quoi. Ce qu'on appelle un cyborg, hein, c'est donc quelqu'un qui est, c'est un cybernétique organisme, donc c'est quelqu'un qui est, c'est un organisme vivant qui a rajouté quelque chose. Et le silicone, c'est rajouter quelque chose. Donc pour moi, ça rentre complètement dans la catégorie du cyborg. C'est un premier cyborg. Alors c'est une prothèse qui est pas très, qui est pas fonctionnelle, qui est juste esthétique ou pas d'ailleurs. Chacun ses goûts. Mais c'est complètement une hybridation qui a tendance à caractère sexuel,
ça,
évidemment.
Ça peut être aussi une réparation suite, par exemple, à un cancer ou des choses comme ça.
C'est beaucoup mieux quand c'est comme ça.
Sarah.
Mais dans les modifications corporelles, puisqu'on en parle maintenant, il y a aussi de plus en plus de chirurgie plastique sexuelle, chez les hommes comme chez les femmes, de transformation de la vulve, par exemple, parce qu'il faudrait qu'elle ressemble à celle d'une enfant. Ou de, enfin, toutes sortes de modifications corporelles au niveau sexuel pour augmenter les performances.
Ça s'appelle la nymphoplastie, c'est ça, je crois.
Qu'est-ce que ça dit de nous, ça, cette nymphoplastie, cette volonté sexuelle de la performance? Ça vous interpelle?
Je ne sais pas si c'est la performance ou plus l'apparence, en fait. Donc c'est une forme de performance, hein, mais... ça interroge les canons de beauté, quoi, la mode en fait. C'est-à-dire qu'on est abreuvé d'images, d'icônes, en particulier sexuelles, qui sont assez normées. Alors ça va du mannequin qui défile, qui est hyper maigre, personne n'est maigre comme un mannequin, et c'est même maladif d'être comme ça. Néanmoins, c'est un canon de beauté qu'on nous impose. Et aujourd'hui, tout le monde, ou presque tout le monde, enfin, je ferai peut-être un sondage, voir si quelqu'un n'a jamais vu de porno dans cette salle. Mais tout le monde voit du porno dans lequel il y a une certaine norme, justement. Et une norme, donc pour les seins, on en a parlé, même si c'est un peu plus varié. Et surtout pour le sexe féminin, c'est clair. Hein, le sexe doit être très beau, très lisse. Elles sont toutes comme ça, les actrices. Dans la vraie vie, elles ne sont pas toutes comme ça. Et donc, les jeunes qui grandissent avec ça, je pense qu'ils ont envie de ressembler, dans une certaine mesure, aux images auxquelles ils sont confrontés. Ils tentent cette chose-là, qui coûte très cher. C'est un peu idiot, moi, je trouve. Mais...
Qui n'a jamais vu de porno dans la salle? Ouais, vous mentez.
Je t'avais dit qu'il fallait projeter des choses.
Oui, on fait avoir un partenariat avec Marc Dorcel, puis il n'a pas pu venir.
Mais moi, c'est en tant que traductrice que j'ai travaillé,
voilà,
sur les espèces de sexbots. Parce que, par exemple, la fille automate, qui est une hybridation, mais une hybridation génétique, sans cybernétique, est faite pour être la gaïcha parfaite. Ou dans l'anthologie des Utopiales d'il y a 2 ans, le modèle Mika était un robot sexuel avec accès à un réseau énorme qui d'amélioration continuelle, et à chaque fois se posait la question de l'abus, la question du viol et la question de la violence envers des êtres qu'on considère comme artificiels.
Tu as parlé de geisha. Dans l'art, entre guillemets, de la geisha, il n'y a pas simplement le côté sexuel, il y a aussi tout l'art de la conversation et de l'accompagnement.
Oui, mais c'est un art de la soumission. C'est systématiquement un art de la soumission, un art de plaire et faire plaisir à l'homme.
Donc, ok, c'est plus un accompagnement avec débouché sur le sexe. Tu me disais avant de commencer que les poupées sexuelles, ça ne date pas d'aujourd'hui. Tu me parlais de femmes d'osier.
La première fois qu'on voit ça apparaître, c'est un historien qui voit ça au XVIIIe siècle. Ce sont des marins hollandais qui ramènent d'Extrême-Orient des poupées de bambou, qui étaient des espèces de pelochons entourés prenant une forme féminine, qui étaient soi-disant utilisés pour rafraîchir l'entrejambe dans les pays tropicaux, et que les Hollandais, les marins hollandais vont améliorer justement pour devenir des dames de voyage pour les voyages au long cours. Et petit à petit, ça va s'améliorer, ça va être de plus en plus détaillé, de plus en plus féminin, jusqu'à l'histoire, la fameuse histoire d'Oscar Kokoschka, qui fait fabriquer une poupée à l'effigie d'Alma Mahler qu'il a quittée, et qui devient vraiment une poupée sexuelle. D'accord. Et on commence en 1920 à peu près à avoir des dames de voyage en caoutchouc avec des réactions, avec des sécrétions, dès cette époque-là.
Oui, là on parle de voyage, de cadre où il n'y a pas de femmes pour accompagner les marins, quoi.
Oui.
D'objets de substitution entre guillemets par manque. Est-ce que c'est ça qui change par rapport à ce qu'on a aujourd'hui avec ces robots sexuels, tu penses?
Oui, ça devient quelque chose de plus. C'est plus le voyage, c'est plus le manque de quelqu'un non plus. C'est remplacé. Mais ça, on le voit dans la science-fiction depuis longtemps avec les gynoïdes de compagnie. Ou quand on voit par exemple dans un roman de Serge Lehmann, Aucune étoile aussi lointaine, le personnage qui veut absolument être nôtre dans un monde où il y a des portes interstellaires, se fabrique une gynoïde pour avoir des rapports sexuels. Dans La petite bulle d'univers de Pierre Bordage, qui est sorti l'année dernière, il y a toute une relation entre un homme et une gynoïde qui est là pour l'aspect sexuel, mais aussi pour le cadrer et avoir en fait tous les rôles traditionnellement féminins. C'est vraiment tout le féminin, tout le rôle du féminin, de la geisha à la gynoïde, à la poupée sexuelle, qui est mis en avant.
D'accord. Est-ce que c'est pareil pour toi dans Thinking Eternity, dans ces hybridations? Est-ce que tu vas jusque-là?
Alors déjà, moi, j'ai pas mis en scène de poupée sexuelle féminine, masculine, oui. C'est-à-dire que j'ai une scène où une de mes héroïnes se tape un robot pour dire les choses telles qu'elles sont. Et pour l'anecdote, c'était une scène que j'avais pas du tout prévue au début. C'est mon éditeur qui m'a dit rajoute pour vendre, il faut mettre du sexe. Non, c'est pas tout à fait vrai, mais on l'a rajouté sur le tard. Dans mon premier roman, il y a des scènes de sexe évidentes, hein, mais j'avais des doutes par rapport à ça. Je me disais, est-ce qu'il faut les mettre, est-ce qu'il faut pas les mettre? Et en l'occurrence, on les a mises parce que ça sert le récit. C'est-à-dire que je n'envisage pas de ne pas raconter la sexualité de mes personnages. Et c'est dans un monde dans lequel, effectivement, il y a une intelligence artificielle qui gère tout et qui se transpose dans des robots. Et effectivement, donc comme elle gère tout, elle gère en particulier la sexualité de au moins une... Alors on ne sait pas pour les autres, hein, c'est tout est vu par les yeux d'un seul personnage, enfin de trois, mais sur l'aspect sexuel, c'est un seul. Donc oui, et j'ai mis en scène des vraies femmes, mais pas de sexbot féminine. On pourrait faire ça peut-être un jour.
Bebdeum, quand vous mettez dans vos poupées et que vous les mettez aussi à caractère sexuel, est-ce qu'il y a une idée de transgression aussi derrière? Vous parliez de sensualité, mais je pense notamment au petit cabinet là, interdit aux enfants. Si vous avez des enfants, n'y allez pas. Mais je voudrais qu'on parle aussi de l'aspect transgressif de tout ça et en quoi est-ce transgressif?
Bah, encore une fois, c'est pousser le pousser un petit peu dans l'outrance tout ce qu'on vit dans notre société. Moi, j'ai abordé ça d'une manière très graphique et sans vraiment réfléchir. Il y a des textes d'Alain Damasio qui vont plus dans ce sens, qui parlent plus de poupées sexuelles et de perversion. Moi, c'est plus j'essaie de suggérer et de donner un sentiment plus, une ambiance. Mais j'ai pas vraiment de choses concrètes à montrer.
Et comment vous l'avez conçu ce cabinet dans lequel on rentre avec ce petit rideau qu'on pousse quoi?
C'est pas moi qui l'ai conçu. En fait, on cherchait une boîte pour faire une boîte noire pour mettre les vidéos. Et en fait, Gilles Francescano, le commissaire, a pensé qu'on pouvait mettre aussi des images un peu plus hard, entre guillemets. Alors, il se trouve qu'il n'y a rien de très terrible dans cette boîte. Donc, c'est un peu dommage d'avoir mis un avertissement, je pense. Alors qu'à l'extérieur, c'est pareil, en fait. Donc, les gens, je pense, sont un petit peu déçus. C'est un petit peu dommage. Mais bon. Là, je fais une petite.
Je confirme, moi je m'attendais à rentrer dans un peep show, un truc assez un peu.
Ouais,
c'est un petit peu l'idée qu'on a quand on voit le rideau en tout cas.
Oui, ouais, c'est curieux. Mais je ne sais plus quel était. Voilà.
Ça n'en reste pas moins intéressant ce qu'il y a à l'intérieur, mais ce n'est pas ce qui est annoncé par le petit panonceau.
Non, pas du tout.
Il y a les lois de la robotique sexuelle de Roland Wagner, hein, qui est en 82, qui voulait compléter les lois d'Asimov. Première loi, un robot ne peut accorder d'étreinte à un être humain sans son accord, ni, restant passif, laisser cet être humain se consacrer au plaisir solitaire. Deuxième loi, un robot doit obéir à tous les désirs pervers des êtres humains, sauf si ces désirs sont en contradiction avec la première loi. Troisième loi, un robot doit protéger sa virginité dans la mesure où cette protection n'est pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi.
Joli. Roland Wagner, donc 1982. C'est intéressant, il parle de virginité, pour le coup. Et pour quelle raison, selon toi, l'idée qu'une poupée sexuelle doit être vierge?
Il y a un fantasme qui reste, qu'on voit toujours, que ce soit en littérature, enfin dans tous les médias, qui est la personne intacte. La personne qui n'a jamais été touchée, la personne dont on est le premier ou la première à déflorer, à apporter du plaisir ou pas, mais à toucher. C'était cette espèce de... Comment dire ça? Ah, j'ai perdu le mot. D'exclusivité face à ça. Mais par exemple, dans une série qui s'appelle Dark Matter, où il y a une gynoïde qui s'occupe du vaisseau, à un moment donné, dans un épisode, il trouve une autre gynoïde et découvre que c'est une gynoïde sexuelle. Et ça pose énormément de problèmes dans l'équipage et vis-à-vis de l'autre androïde. Et surtout, c'est aussi la question de la virginité. Qui va être le premier à... Toujours cette exclusivité, ce côté territoire à conquérir.
Est-ce que on a d'autres regards que le regard un petit peu de la perversion sur les robots sexuels? En gros, est-ce que les robots sexuels ne sont que les reflets de nos perversions et de nos envies? Ou est-ce qu'on pourrait imaginer un regard, si ce n'est plus bienveillant ou utilitaire ou que sais-je?
Tu as dit perversion et envie, c'est pas tout à fait la même chose pour moi. Et j'allais te répondre non, il y a autre chose que la perversion, il y a l'envie, mais... Non, oui, ça doit... Et peut-être même le besoin aussi. Peut-être on peut imaginer des situations dans lesquelles les gens ont besoin de sexe et ils ne le trouvent pas et l'assouvissent par le truchement d'un robot ou d'autres sextoys, quoi. Mais à mon avis, tout peut rentrer dans ces trois catégories-là, hein, perversion, envie et besoin.
Mais avec toujours cette idée sociale de la nécessité du sexe, de la nécessité du désir et de l'assouvir. Qui peut aller jusqu'aux incels, qui peut aller jusqu'à des cas pathologiques. Quand on voit que l'une des premières sexbots à être explosée dans une foire a été entièrement détruite par les visiteurs. Et détruite non pas parce qu'ils étaient choqués par son apparence, mais parce que c'est à force de l'utiliser, en quelque sorte, puisque ce sont ses seins, ses fesses, ses parties génitales qui ont été détruites. Donc, il y a ce problème-là aussi. C'est le problème du consentement. Bon, en même temps, c'est aussi la possibilité pour certains d'avoir une compagnie, d'où l'importance de la réponse et de la possibilité de parler. Parce que si ça se limite à... Ben c'est une poupée gonflable.
C'est marrant, tu rajoutes la nécessité. Je disais perversion, envie, besoin. Et on peut peut-être rajouter une espèce de nécessité, mais dans ce cas, peut-être un peu sociale, c'est-à-dire... Et comme tu dis, ouais, on est obligé de faire du sexe dans notre société. Enfin, on peut imaginer une société dans laquelle on serait obligé de faire du sexe et dans laquelle deviendrait donc nécessaire pour des gens de faire ça. Quoi.
Il y a cette idée dans notre société où quasiment dès l'enfance, on enseigne la notion de couple, la notion de sexe, la notion de pulsion sexuelle qu'il faut assouvir.
On n'a pas le droit d'être asexuel, en fait, dans le...
Et en même temps, ce sont parfois les arguments que pourraient utiliser des défenseurs de la prostitution. Est-ce que le robot sexuel serait plus moral, finalement, que la prostitution ?
Première réponse qui me vient à l'esprit, c'est oui, évidemment. Ouais. Oui, évidemment, c'est un outil, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème de consentement sur un robot sexuel de base tel qu'il existe aujourd'hui. Après, si on se pose la question des intelligences artificielles très évoluées, là, la question se posera, mais elle ne se posera pas que pour la chose sexuelle, elle se posera pour tout. Est-ce qu'ils ont une âme ? Est-ce que tout ça ? Enfin, mais aujourd'hui, un robot sexuel, oui, on peut en disposer comme on veut. Et donc, justement, oui, c'est un substitut à la prostitution qui est très bien, en fait. D'ailleurs, il y a un bordel qui est ouvert à Paris où on peut... Alors, les bordels sont interdits à Paris, sauf que non, là, oui, parce que ce n'est pas des êtres humains, ce sont des robots, quoi. Je ne sais pas si ça marche ou pas, je ne sais pas si quelqu'un a l'information. Je voulais y aller pour préparer la table ronde, ouais. J'ai pas eu le temps.
Et ça passe mal en note de frais, quoi.
Voilà. Et avec un robot, il n'y a plus la notion d'acheter un corps, de posséder parce qu'on a donné de l'argent à quelqu'un pour utiliser son corps. La question de l'argent et de la possession et d'acheter un corps ne se pose plus.
Et est-ce que la question de reproduire un corps, alors en grande partie féminin, pour l'utiliser à son bon vouloir, ne pose pas aussi problème ou question ? En tout cas, sur l'ordre de la morale, parce que quand c'est rigolo, mais effectivement, quand le bordel avec des poupées sexuelles a ouvert à Paris, il y a eu plein de gros titres, il y avait quand même un mouvement de, non pas d'envie, mais de un petit peu de recul, quoi. Donc, même si j'entends bien que ce sont des objets, le fait que ce soit des objets à forme humaine et à corps essentiellement féminin, n'est-il pas un souci quelque part ?
C'est très judéo-chrétien, en fait. C'est là, on peut dire même musulman, parce que c'est la représentation. Tu ne créeras pas de. Tu ne te substitueras pas à Dieu. Tu ne créeras pas de créature à ton image. Il y a cette petite question-là. Et puis après, c'est quel corps ? Quelle image ? Est-ce qu'on va reproduire des personnalités ? Sur le corps de ces sexbots ? Est-ce qu'on va reproduire. Justement, l'image extrêmement plastique que donnent les différents films pornographiques, ou est-ce qu'on va choisir justement des femmes réelles dont on va reproduire la plastique et l'esthétique ?
Moi, je pense qu'il faut faire à l'image de toutes tes œuvres qui sont là-bas. Là, ça peut être intéressant.
Ouais, mais est-ce que vous mettez la même chose entre des corps qui ont vraiment des corps de poupées, il y a trois corps qui ressemblent presque à des poupées Barbie. Est-ce que dans la tête de l'artiste, c'est la même sensualité que des corps qui ne seraient pas robotisés ?
Je ne sais pas répondre à ça, je ne sais pas. Je voulais revenir, excuse-moi, au Japon, par exemple, c'est peut-être ils ont un autre rapport avec la poupée gonflable, parce que lui, il prête une âme avec l'animisme, il prête une âme aux objets, en fait. Et donc, peut-être que ça nous vient aussi de cette culture-là. Je pense qu'ils ont commencé beaucoup plus tôt avec ça, et que ça nous vient, mais d'une manière, nous, on le reçoit d'une autre manière, puisque nous, c'est un objet qui n'a pas d'âme, a priori. Et comment, enfin, j'interroge...
C'est aussi le golem. Et donc je crois que c'est vraiment une idée très judéo-chrétienne de ne pas être le créateur d'une créature à visage humain. C'est un mécanisme culturel.
Non, mais je suis d'accord avec toi sur la différence, je pense, assez fondamentale qu'il y a entre l'Orient et l'Occident sur cette question-là et sur le fait que les objets peuvent avoir une âme en Asie. Quand on pense cyborg, dans l'Occident, je pense qu'on pense beaucoup Robocop. Donc il n'a que des outils sur lui, il n'y a aucune notion que ces outils pourraient avoir participé de son âme, même pas avoir une âme, mais participer de son âme. C'est venu après dans les films en Occident. Quand on pense cyborg asiatique, on pense beaucoup Ghost in the Shell ou ce genre de choses-là, où tout de suite, il se pose la question de est-ce que la machine ne va pas avoir une espèce d'âme, comment on va interagir avec. Et donc je pense que c'est une vraie différence assez fondamentale. Ouais.
Mais si on prend ton idée d'utiliser tous ces corps représentés par Bette Dope, ça peut être très intéressant parce que, oui, pourquoi pas une sex-dope, une sex-bot âgée ou grosse ou tous les corps possibles. Là on passe à quelque chose de beaucoup plus intéressant.
Il faut voir s'il y a un marché. Hein, pour...
Bah, écoute, il y a déjà un marché pour se transformer soi-même en poupée gonflable. Il y a des bodysuits en latex complet, visage compris, qui donne une apparence entre le manga et la poupée gonflable. Donc, il y a des gens qui portent ça, qui se transforment eux-mêmes avec cette apparence de robot, de poupée Barbie ou de mangaka.
Sur la notion d'âme, est-ce que ça ne pourrait pas se rapprocher un petit peu de l'intelligence artificielle et à partir de ce moment-là, de la question du consentement? Je pense à une série comme... U-Boat, par exemple, qui était une série avec des robots humanisés dans nos vies, où il y avait des problématiques justement d'ordre sexuel. Il suffisait juste de les reprogrammer pour que ça devienne des objets. Est-ce qu'on peut rapprocher cette notion asiatique d'âme pour les objets de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des limites du consentement?
Ouais, bien sûr, c'est un peu ce que je disais tout à la fin, non. Mais dans notre cinéma occidental, c'est justement quand on a commencé à penser à l'intelligence artificielle que la question s'est posée. Robocop 2, il est beaucoup plus intelligent que celui de très récent. Là. Dans celui-là, se pose complètement la question de l'interaction avec la machine et avec son âme, qui ne se posait pas du tout 30 ans avant. Donc oui, l'intelligence artificielle, c'est la porte ouverte à se poser la question du consentement sur ces choses-là. Ouais.
Dans le cas de la fille automate, c'est une hybridation humaine-animal, mais à un moment donné, elle passe de la soumission totale à son propriétaire et elle dépasse son conditionnement. Et à ce moment-là, la question du consentement, la question du viol et de la violence peuvent se poser puisqu'elle a dépassé sa condition. C'est comme une intelligence artificielle qui accéderait à la conscience, d'elle-même et donc à l'âme en quelque sorte.
C'est Paolo Bacigalupi, c'est ça, la fille automatique.
Il faudrait pas en gros que nos sexbots deviennent trop intelligents, quoi.
À ce moment-là, ça devrait, le problème serait différent.
Moi, en lisant l'intitulé de la table ronde, là où on se demande si on pourra violer des sexbots ou pas, enfin si on pourra, la notion de viol existera pour les sexbots ou pas, moi, ce qui m'intéresse presque plus, c'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, des sexbots peuvent nous violer, en fait. Et c'est justement dans la nouvelle de Paolo, qui était dans la frontière entre un pervers qui demande à son sexbot des pratiques sadomasochistes et tout ça, et puis dans cette nouvelle-là, ça tourne mal et le type meurt. Et donc c'est même pas un viol, là on parle d'un assassinat, enfin d'un meurtre. Mais il meurt parce qu'il l'a demandé à son sexbot, il a demandé une pratique à son sexbot qui d'ailleurs ça arrive aussi avec des vrais humains ça, mais qui dérive. Et moi pour moi c'est ça la vraie question, c'est-à-dire le jour où on aura des sexbots chez nous et où il y aura un accident comme ça, qui est responsable? Est-ce que c'est l'entreprise qui a fabriqué le sexbot? Est-ce que c'est le propriétaire du sexbot? Est-ce que c'est le sexbot lui-même? Est-ce qu'on leur prêtera donc une responsabilité?
C'est toute la question de la nouvelle, en effet.
Et c'est une question qui se pose beaucoup pour toutes les intelligences artificielles aujourd'hui, en particulier par exemple les voitures connectées, les voitures autonomes et ce genre de choses-là. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Est-ce qu'on va se faire violer par... Enfin, alors sortons du meurtre, mais est-ce qu'on va pouvoir se faire violer par des sexbots? C'est intéressant, ça.
Oui, c'est la créature qui dépasse le créateur.
Oui, mais en même temps, ça inclurait une notion de désir, hein.
De désir dans l'intelligence artificielle ?
De programme ?
De désir ou de volonté de pouvoir ? Parce que le viol, ce n'est pas une question sexuelle. C'est une question de violence et de pouvoir.
Il n'y a pas forcément de désir, hein. Ça peut être juste un programme, quoi. Enfin, tu démarres ton sexbot pour avoir une activité sexuelle, puis tu n'arrives pas à l'arrêter. Donc ça peut être très mécanique, très fonctionnel. Et puis comme il est plus fort que toi, ben, tu n'arrives pas à te défendre et tu te fais violer par ton sexbot. Donc il faut prévoir des commandes pour l'arrêter, quoi.
Le safe word pour...
Et non, mais il ne faut même pas prévoir des commandes pour l'arrêter, parce que dans les pratiques SM, justement, enfin, tu donnes ta commande pour t'arrêter, puis c'est à ton maître de gérer est-ce que tu veux vraiment qu'il t'arrête ou en fait pas. Donc tu demandes d'arrêter, mais en fait tu ne veux pas. Donc,
D'où l'important du safe word. Ouais.
Est-ce qu'on ne peut finalement résoudre tout ça que, enfin en tout cas restreindre tout ça que sur une question de marché ? On l'a dit, les poupées sexuelles, hein, le marché des technologies du sexe vaudrait déjà 30 milliards de dollars, hein, et celui de la pornographie pourrait valoir des dizaines de milliards de dollars par an. Est-ce que finalement tout ça n'est qu'une entreprise capitalistique ?
C'est sûr que ça joue un rôle. Alors c'est cher un sexbot pour l'instant, donc forcément si on en fabrique, il faut les vendre, enfin il faut les rentabiliser d'une façon ou d'une autre. Le porno c'est moins cher, malheureusement. Hein. C'est-à-dire que moi je préférais que ce soit très cher le porno, que c'est-à-dire que les gens qui font ça, enfin qui font des films porno soient correctement rétribués. Alors il y en a qui le sont, mais il y en a plein qui le sont pas et c'est catastrophique. Mais donc il y a une composante de marché, c'est sûr. Est-ce que ça se restreint à ça ? Je suis pas sûr. Dès qu'il y a une innovation technologique, la réalité virtuelle, n'importe quoi, c'est tout de suite utilisé pour. Tout de suite, des gens imaginent la pratique sexuelle qu'on peut faire avec. Donc, je pense que plus avant le marché, il y a vraiment du désir, quoi. On aime ça, le sexe, quoi, en moyenne. Je sais pas, on peut faire un sondage encore une fois, mais on aime ça et donc on a envie avant de l'acheter, on a quand même envie de le faire, non ? J'espère.
Non, puis il y a tout le storytelling, marketing, il y a tout, il y a aussi la fabrique du désir capitalistique qui existe. Il y a la fabrique de l'envie, de la consommation qui fait partie de ça aussi.
Complètement. J'aime à penser que c'est pas inéluctable et que c'est pour que ça se réduit pas à ça, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, dans le monde actuel, tout est Bitcoin, non ?
Et je voulais revenir, puisque on a des sexbots qui sont de plus en plus intelligents, sur le désir de conversation, entre guillemets. Est-ce que finalement, on pourra avoir des robots sexuels sans sexe, ou en tout cas les utiliser sans passer à l'acte sexuel ?
Mais je crois qu'il y a un certain nombre de clients de poupées sexuelles, de pornographie, de prostitution, qui ne cherchent pas forcément l'acte sexuel, mais la compagnie. Qui recherche la réassurance, qui recherche le câlin, la conversation, la présence de quelqu'un dans leur vie.
Dans la prostitution, c'est connu, c'est même assez répandu. Hein. J'ai pas de chiffre en tête, puis ça doit dépendre beaucoup de quelle prostitution on parle, des call girls ou des prostitutions, de la prostitution de rue, ça doit être très différent. Mais il y a beaucoup d'hommes qui voient des prostituées, et puis... parce qu'ils ont une certaine frustration sexuelle. Il y en a pas mal, je pense, qui ont une frustration sexuelle parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas mieux avec la prostituée. Mais ils ont une compagnie, ils peuvent en parler. C'est presque des psys, quoi. Alors, je n'ai pas de chiffres. Je ne sais pas si c'est une grosse proportion ou pas, mais c'est sûr que ça existe. Ça.
J'ai une amie qui est travailleuse du sexe, qui est call girl. Et essentiellement, ses clients sont des gens qui, un, veulent assouvir un fantasme, mais qui ne veulent pas que du sexe. Ils veulent une présence, ils veulent une rencontre. Beaucoup demandent une mise en scène. Une mise en scène de la rencontre, par exemple. Un rendez-vous au bar, ou avec une séduction. Il y a vraiment une mise en scène autour pour dépasser l'acte sexuel unique, seul. On va beaucoup plus loin. On va vraiment dans la rencontre de l'autre, dans le côté sécurisant, le côté rassurant, le côté chaleureux de la présence de l'autre.
Est-ce que veut dire que ce n'est pas forcément que l'image de nos perversions, c'est aussi l'image de nos manques affectifs ?
C'est exactement ça. Mais on le voit dans la science-fiction, on le voit avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence artificielle ou d'androïdes ou de génoïdes qui sont créés pour des populations, pour des vaisseaux spatiaux, pour donner de la compagnie, du répondant, de la conversation aux gens.
Demain, on aura peut-être des assistants personnels polyvalents, donc ce sera des robots, ils seront capables de sexe, mais pas que. On pourra discuter avec eux et choisir complètement ce qu'on veut faire avec eux. Il y a du boulot encore, mais...
Ouais. Des sortes de teddy bears, mais avec qui on pourrait coucher, quoi.
Mais c'est un peu ça.
T'as jamais couché avec ton teddy bear, toi?
Je ne sais pas si tu as vu la poupée Alma Mahler qui a été commandée par Oskar Kokoschka. C'est un nounours. Elle est... La douceur de la peau est remplacée par une douceur de fourrure. Il y a ce côté nounours, ce côté doudou, qui est aussi très important. Et donc, l'objet de tendresse, l'objet de réassurance est très présent.
Ouais, Winnie l'ourson est sexy, hein, finalement.
Chacun ses perversions.
Ce qui veut dire qu'on pourrait imaginer des sex-bots complètement différents de l'image normée de la femme pulpeuse à gros seins, comme on peut, auquel on pense tout de suite quand on pense à un robot sexuel. Quoi.
Moi, j'aurais tendance à dire que c'est ce qu'il fallait faire en premier. Alors, mes contemporains n'ont pas l'air d'accord avec ça. Il semble que ce qui marche le mieux, c'est au contraire ceux qui sont dans les canons de beauté évidents. Mais moi, je me taperais bien une martienne. Quoi.
Oui, un corps différent, des membres différents, des formes différentes, des couleurs, des textures. Là, ça devient intéressant.
Et à ce moment-là, quid de nos fantasmes? Qu'est-ce qui reste si on peut tout assouvir, si on peut tout recréer, tous nos désirs, la libido, qu'est-ce qu'elle devient dans tout ça?
Je crois qu'on trouvera toujours le moyen d'en avoir d'autres. Et qu'à mesure où on assouvit certains fantasmes, on en crée d'autres.
On fera des boucles après.
Comme on crée d'autres tabous quand on abat certains tabous.
Après s'être tapé plein de sexbots de formes très très différentes, on se dit, tiens, mais il y a des vrais gens en fait, j'ai pas essayé encore.
on a fait pas mal le tour. Je voulais qu'on parle peut-être un peu comme Tefaye, du rapport à la nature finalement, entre technologie et nature. Qu'est-ce que ça dit de ce rapport-là, nos sexbots? Un peu comme Tefaye.
Bah, mes fées, elles sont la nature. Donc, et justement, comme des sexbots, elles changent avec la relation à l'humain. De toute façon, toute relation change chacun des partenaires. Mais on pourrait imaginer une civilisation où le sexe naturel est interdit. Et où on ne peut assouvir sa sexualité qu'avec des robots. Et à ce moment-là, c'est la nature, c'est la personne qui deviendra le fantasme absolu.
Bien, alors, parlons de vos fantasmes à vous. Ouais, Clément Devant.
Bonjour à tous et merci pour ces conversations. Je voulais juste revenir sur le Japon, en fait, sur l'imaginaire oriental, parce que je m'étais documenté là-dessus pour un colloque sur la prothèse et la question de prothèse sexuelle est arrivée sur les tables, en fait. Et notamment, il y avait une personne qui était intervenue sur la question des sex dolls au Japon. Et il faut savoir qu'au Japon, donc oui, il y a cette notion d'animisme, effectivement, et qui est nettement plus forte que chez nous. Mais il y a aussi un véritable problème social, ou du moins une problématique sociale, de la misère sentimentale et sexuelle. Et il y a de véritables mises en scène par des jeunes gens masculins, féminins. Il y a une véritable mise en scène de la pauvreté sexuelle avec des sexbots et certains dirigeants d'entreprises qui commercialisent les sexbots au Japon se font une fierté de représenter la poupée la moins ressemblante à un être humain possible et si possible la moins désirable possible. Et il y a une espèce de théâtralisation de la frustration, en fait, que je trouve à la fois fascinante et angoissante quelque part, mais c'est un phénomène très très fort apparemment au Japon.
Ce que vous dites, c'est que c'est complètement assumé, c'est ça, la frustration est complètement assumée et c'est même un outil de marketing.
Voilà, c'est une. En fait, on est tellement triste qu'on le pousse au dernier degré, quoi. Quasiment à la parodie, quasiment. Voilà. Donc ça dit quelque chose, me semble-t-il, d'une partie de cette société, en tout cas.
De la même manière que ce dont je parlais, les bodysuits en latex, où on transforme son propre corps en quelque chose d'artificiel, de plastique, et donc qui n'est plus charnel, qui n'est plus dans l'humanité, mais plus vers la poupée ou le robot, et qui retire d'une certaine manière les possibilités sexuelles, puisque ça devient un être artificiel, ça devient une poupée, une Barbie grandeur nature, en quelque sorte, sans orifice.
Oui, une autre question ?
Oui, ouais. Je ne vais pas parler de Japon, mais plutôt de Grèce antique. On avait le mythe de Pygmalion et de Galatée, qui me semble assez en parallèle avec celui de la création des poupées sexuelles. Alors, je trouve qu'on n'a pas parlé assez de sentiments ou d'amour qu'il peut y avoir aussi pour ces créations, comme justement dans le mythe antique. Voilà, pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Parce que dans le sexe, au final, il y a aussi l'humanité. Et je pense que se limiter à ça, même si l'outil, effectivement, c'est une poupée sexuelle, je pense qu'il y a quand même plus loin à creuser, quoi.
Il y a le cas de gynoïdes ou d'androïdes intelligents créés par certains personnages dans certains romans qui au départ sont des créations mais dont le créateur tombe amoureux. Il y a un roman qui s'appelle justement L'effet Pygmalion de Christophe Lambert qui parle de la création là, d'intelligence artificielle dont le héros tombe amoureux. C'est vraiment la relation entre le créateur et la créature. Et oui, il tombe amoureux, mais il tombe amoureux de quoi ? Il tombe amoureux de ce qu'il a créé. Il tombe amoureux de sa propre intelligence, de sa propre imagination, de sa propre capacité à créer, beaucoup moins d'un être réel, en fait.
Moi, je suis complètement d'accord avec vous aussi. Puis merci pour la référence au mythe fondateur, si on peut dire. Moi, je pense que je suis très, très, très amoureux de mon téléphone portable. Et donc, je ne vois pas pourquoi quelqu'un ne pourrait pas tomber amoureux d'un sexbot. C'est même mieux, je pense. Et mon téléphone portable, je ne l'ai pas. Il me manque. J'adore le toucher. Enfin, c'est terrible, quoi. Donc, pour moi, on peut tout à fait développer des sentiments pour des objets, quoi.
Oui, mais tu n'as pas créé ton téléphone portable.
Non, alors, c'est pas l'effet Pygmalion. Non,
c'est
pas l'effet Pygmalion, je suis d'accord. C'est l'effet Steve Jobs.
Une autre
Siri,
question.
Je t'aime.
Hop, attendez,
Oui, bonjour. J'avais une question par rapport à la série Westworld. Qu'est-ce que vous pensez d'un parc d'attractions où tout est permis, y compris sexuellement, et où tout est peuplé d'androïdes, qui sont complètement là pour assouvir les désirs des clients?
Moi, j'ai rien contre. Alors, le point important, c'est que c'est des androïdes. Hein. Si c'était pas des androïdes, ce serait une autre paire de manches. Non, moi, j'ai rien contre assouvir toutes les pulsions, et en particulier la violence, hein, plus que le sexe.
Et dépasser les tabous.
Ouais, dépasser les tabous dans un cadre assez bien maîtrisé, plutôt que dans la société, dans la grande société, dans la rue, quoi. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'au contraire, le fait de pouvoir exercer ces tabous librement, même dans un cadre fermé, ça fait qu'on va oser le faire dans la société. Moi, je n'ai pas d'avis définitif sur cette question, à part le mien.
C'est la question du jeu vidéo, en fait.
Complètement.
C'est exactement la question du jeu vidéo, sauf que là, on est face à des androïdes, on est dans un jeu vidéo totalement tangible. Mais c'est exactement la même question. Mais la question de Westworld, c'est la cognition, c'est petit à petit arriver justement à la conscience. C'est toute une réflexion sur l'intelligence artificielle et comment la mémoire, les couches de mémoire vont créer une conscience. C'est donc beaucoup plus la cognition et des choses comme ça que pose...
Oui, parce que la question de Westworld, en fait, c'est que ce sont des androïdes qui nous ressemblent.
Oui.
Et de plus en plus au fur et à mesure de la série. Donc, on se repose la question de la transgression de la violence, quoi. À partir du moment où ils sont humains, est-ce qu'effectivement, on peut les violer, les découper comme on a envie, juste parce qu'ils sont là pour ça, quoi.
Moi, je trouve qu'ils sont trop humains dans Westworld. C'est trop des vrais acteurs. Il n'y a pas assez de shift, je trouve. On ne se rend pas du tout compte que et je pense que ça appauvrit pardon, un peu le propos. J'ai plutôt tendance à préférer la série qui s'appelle Real Humans, Real Humans, dans lequel je trouve que les robots ils sont vachement plus dérangeants. Il y a cette histoire de Uncanny Valley, là, la frontière, où quand est-ce que le robot est trop ressemblant à l'humain, qui est super intéressante dans ce genre de... Pareil pour les sexbots, quoi. Quand elles vont être complètement humaines, quand on ne va pas se rendre compte de la différence, ça va changer le rapport.
Mais c'est justement là la transgression dans Westworld, c'est que la ressemblance est telle qu'on ne peut pas faire la différence entre un robot et un joueur.
Une autre question ?
Alors, déjà, je mets dessus, j'ai pas beaucoup de voix, mais je me demandais, dans un cadre, dans une société capitaliste qui détruit les liens sociaux, à quel point la recherche, justement, d'un sexbot ou d'une gynoïde de compagnie qui va avoir des réactions normales, qui va permettre de créer une relation, peut être plus facile que de devoir faire face à d'autres êtres humains avec toute l'incertitude que ça implique.
Évidemment, puisque la gynoïde de compagnie ou le sexbot est conçu et programmé pour répondre aux attentes de son propriétaire. Et donc, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de séduction, comme il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de questionnement non plus.
Après, je pense que tout est possible, ça dépend vraiment de chaque individu, quoi. Je pense, on peut tout à fait imaginer des individus pour lequel avoir un sexbot va aider en fait à se retourner vers les humains après, des gens qui seraient très déconnectés. Donc tout est possible. Ce qui manque toujours dans ce genre de débat, je trouve, c'est des statistiques. On les a pas encore parce qu'évidemment c'est pas une grande population, mais on sait pas vraiment quel est l'impact de ce genre de choses là. On pense toujours aux jeux en ligne massivement multiplayer sur ce genre de choses là. Donc il y a plein de gens qui sont tout seuls chez soi en train de discuter avec des gens à distance. Ben pour moi, ça, c'est créer un énorme lien social. Alors, c'est des vrais gens qui sont derrière. Et ces gens-là, souvent, ils se voient après, à un moment. Hein, s'ils voyagent, qu'ils passent dans les pays les uns des autres, ils se rencontrent. Ils ont une passion commune, ils ont partagé énormément de choses, et c'est intéressant. Alors, les sexbots, on n'est pas ça, parce qu'il n'y a pas... Quoi qu'on pourrait peut-être mettre des gens derrière les sexbots, une call girl derrière semblant...
Oui. Mais comme il y a des possibilités de sexe interconnecté, où tu peux... Des sextoys connectés qui peuvent être actionnés à distance. Ça existe. Mais bon, on parlait tout à l'heure de la possibilité de conversation, de la possibilité de réconfort avec un robot sexuel ou un robot tout court, qui peut, à ce moment-là, oui, amener la personne à avoir plus facilement des relations sociales en s'étant en quelque sorte entraîné à la relation sociale, à la conversation, à la rencontre. De la même manière que, moi, par exemple, je travaille chez moi. Je suis traductrice, journaliste et autrice. Je ne bouge quasiment pas de mon ordinateur. Ma vie sociale, je l'avoue, la plupart du temps, c'est Facebook. Mais ce n'est pas virtuel. Ce sont essentiellement des gens que je connais, des gens avec lesquels j'interagis, des collègues, d'autres auteurs, d'autres traducteurs, d'autres créateurs, avec lesquels je partage énormément de contenu politique et de contenu de création. Donc, est-ce que ces relations sont virtuelles ? Est-ce que ce sont des relations humaines ou pas ?
C'est bon, on pourrait imaginer Sexbot, Facebook ou Twitter labellisés. Il y avait une question juste devant. Il y en a une tout à l'arrière, pardon.
Oui. Oui, donc moi je voulais revenir en fait sur les sentiments et sur le rapport au robot et plus particulièrement à l'intelligence artificielle, et du coup en retournant le problème, et je pense notamment au roman L'espace d'un an de Becky Chambers, où là le problème se retourne et où on a le besoin d'un corps physique pour assouvir ce sentiment en fait. Et du coup je voulais savoir, avoir votre avis sur...
Est-ce que vous avez lu Libération ?
Oui.
Oui, parce que Libération, c'est vraiment la question de l'identité de l'intelligence artificielle. Au-delà de l'espace d'un an, c'est l'histoire d'amour entre une intelligence artificielle et son technicien.
C'est ça.
Mais Libération, c'est vraiment la recherche d'identité, la recherche de corps social de la part d'une intelligence artificielle à qui on a imposé un corps. Et là, la question justement des relations humaines, des relations sociales et de l'identité sociale est cruciale dans ce roman-là.
On pourrait citer aussi le film Heure, par exemple, hein, où pour le coup, il y a sentiment, mais il n'y a pas corps. il n'y a pas physique.
Bah, on peut citer le roman Révolte sur la Lune de Robert Heinlein, qui est l'une des premières intelligences artificielles conscientes d'elle-même. Mycroft et Michel, qui a deux identités, une féminine, une masculine, et qui n'a jamais de corps. Mais son corps, c'est la planète entière.
Du coup, ça ouvre quand même pas mal de possibilités. Hein.
Oui, bonjour. Un aspect qu'on n'a pas trop abordé, c'est l'aspect thérapeutique, voire presque médical. Par exemple, il y a des pays où les infirmières vont être formées pour des patients qui sont très très lourdement handicapés, à la masturbation, qui sont vraiment performés comme un acte médical. Et donc voilà, le sexbot pour une application, parce que quand on y pense, je pense qu'on a tout de suite l'aspect voilà, perversion, à souffrir des fantasmes horribles, tout ça. Mais il y a un côté aussi un peu plus voilà, positif oui, dans ce sens-là.
Ben, on en avait parlé il y a 2 ans dans la table ronde sur les sextoys. L'aspect thérapeutique du sexe et du plaisir existe par rapport à la douleur, par rapport à l'isolement, par rapport à l'isolement dans son propre corps, par exemple. De la même manière qu'il y a les sexbots et donc les infirmières qui sont formées à cela, il y a on a créé des robots animaux, par exemple des robots bébés phoques, pour les personnes atteintes d'Alzheimer, qui apportent un réconfort et la présence, une présence, sans avoir le danger que pourrait poser la personne atteinte d'Alzheimer qui pourrait maltraiter un animal ou un être humain. C'est aussi ça, c'est pouvoir, que ce soit des personnes lourdement handicapées physiques ou même lourdement handicapées mentales, avoir, oui, cette thérapie de la chaleur humaine et du plaisir, c'est une chose très importante.
En préparant la table ronde, je me questionnais justement sur l'aspect thérapeutique, entre guillemets, mais je me demande, c'est pas l'aspect. La question finalement n'est pas tant la question du robot sexuel que l'aspect thérapeutique du sexe, entre guillemets. C'est pour ça qu'on l'a un peu évacué, parce que c'est un sujet que je maîtrise pas très bien, donc pour le coup, j'ai pas trop voulu m'aventurer là-dessus, mais je sais pas si on dévie pas, entre guillemets, par rapport à la question initiale.
On ne dit pas vraiment, puisqu'on a parlé justement de l'importance de la conversation, du câlin, de la présence, et ça revient à l'aspect thérapeutique aussi, entre la solitude et le handicap.
Mais est-ce qu'il faut des... dans la thérapeutie, des robots sexuels, tu vois, peuvent être un plus ou pas? La question me semble plus large sur la problématique de la thérapeutique au rapport au sexe.
Oui, mais à ce moment-là, il faut le robot qui soit capable de réagir et d'interagir. Un robot qui n'est qu'un réceptacle n'a pas vraiment d'intérêt du point de vue thérapeutique.
Est-ce qu'on a une autre question ?
Oui. Ouais. J'aimerais parler aussi de la dimension politique. En voyant le titre de cette table ronde, j'ai pensé à un épisode de la série Rick and Morty, où on a un monde qui est divisé en 2 castes, une caste de femmes, une caste d'hommes. Et la caste de femmes est la caste supérieure et se sert de sexbots qui sont capables de procréer pour maintenir la caste d'hommes dans des conditions déplorables et pour aussi se servir pour pouvoir continuer à se reproduire. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que les sexbots peuvent être instrumentés à des fins politiques ?
Évidemment. Évidemment, on utilise des call girls à des femmes politiques, ne serait-ce que pour créer un scandale. Il y a eu des scandales en Angleterre, par exemple, d'énormes scandales politiques, parce que certains politiciens utilisaient les services de call girls qui étaient en fait des agents doubles. Il y a énormément de possibilités politiques, de possibilités de pouvoir avec des sexbots ou n'importe quel androïde.
Une espionne sexbot, oui, c'est une bonne idée.
Bonjour. J'ai pensé en fait avec tout ce débat aux représentations hollywoodiennes de l'androïde sexuel et par exemple Apris dans Blade Runner ou Gigolo Joe dans Intelligence Artificielle et en tout cas dans ces deux cas les deux androïdes, en fait, on a l'impression que, enfin, en tout cas, si c'est la représentation hollywoodienne, ils cherchent une liberté et une libération par rapport justement à cette à l'utilité par la, enfin, que la, leurs créateurs leur ont assigné.
À nouveau, c'est, on ne parle plus de sexbot, on parle d'intelligence artificielle, on parle de, d'être conscient. Et donc, la question est totalement différente.
Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Moi, je pense, oui, c'est l'intelligence artificielle. C'est un jour, il y aura peut-être des intelligences artificielles qui voudront survivre, qui se sentiront menacées par nous et qui nous foutront sur la gueule parce qu'on les menace. Et ce qui est intéressant avec Her, c'est que c'est un changement de paradigme. Comme elle est dans le cloud, elle a moins peur de nous. Elle a moins peur de la prise de courant. Elle devient bienveillante, alors que les autres, essentiellement avant Her au cinéma, les intelligences artificielles étaient plutôt malveillantes.
C'est la peur de la machine, c'est la peur de la créature qui dépasse le créateur.
Ouais, complètement. Moi, ce que j'ai plus, presque plus... moi, je m'intéresse presque plus aux propriétaires, en fait. C'est-à-dire que je pense que voilà, il y a des sexbots qui vont devenir obsolètes, cassés, tout ça. Il y aura des propriétaires qui seront amoureux d'elle ou d'eux. Et qu'est-ce qu'ils feront pour essayer de la garder
De la réparer, de la
bricoler, l'enterrer, de l'incinérer. Enfin,
comme on fait avec un partenaire
exactement.
Réel. C'est la relation à l'éphémère, à la durée.
Ouais, ça laisse des champs de développement pour Carglass & Co. Quoi. C'est bien. On arrive à la fin de cette table ronde. Vous allez passer une bonne nuit ce soir. Je serais curieux de voir vos rêves ou pas. Merci à nos trois invités. Vous allez pouvoir trouver tout de suite en dédicace. Merci à tous.
Merci, Jérôme.
Merci.